Et ça, je vais lire le passage du jour. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette matinée. Merci d'être au contrôle de toutes choses et merci de veiller sur nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous couvres encore de ta grâce, de ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu manifestes encore envers nous ton amour et de l'affection, Seigneur, qui dépasse même ce qu'on pourrait saisir et s'imaginer. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu as envers ma sœur et que tu manifestes clairement et pour les grâces que tu déverses sur elle. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu as aussi pour mon frère et que tu témoignes, Seigneur, avec tout autant d'intensité et pour toutes ces bénédictions, Seigneur, que tu déverses sur lui. Ce matin, nous voulons te dire merci aussi pour la parole que tu as préparée pour nous, pour notre intelligence que tu ouvres, pour notre pensée que tu ouvres à ta pensée, et pour la provision que tu nous donnes ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous voulons entendre de toi. Nous voulons recevoir de ta part. Alors Seigneur, fais comme il te plaît. Bénis chacun de tes enfants qui regardent en direct, mais aussi ceux qui se joindront à nous plus tard, en différé ou qui regarderont dans les jours, dans les semaines, voire dans les mois et les années qui suivent cet enseignement. Qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors, une fois de plus, bienvenue à tous. Bienvenue en ce mardi 3 novembre 2020. C'est une journée importante, comme je disais, et là j'enlève la blague, c'est pas important à cause de la neige, c'est important parce qu'il y a une élection très importante qui se passe aujourd'hui au sud de la frontière, aux États-Unis. Et comme vous savez, les États-Unis ont une incidence non pas simplement sur leur propre nation et leur propre population, mais sur l'ensemble de la planète. Donc, on va tout à l'heure prier en toute fin de rencontre pour ces élections. Il y a bien des choses qui se disent actuellement, bien des craintes qui sont soulevées dans un camp comme dans l'autre. Donc, on va demander au Seigneur de prendre contrôle de cette situation et d'effacer les plans de l'ennemi par rapport aux conséquences et aux incidences de cette journée. Alors, je lis pour vous le passage de la semaine qui est dans Proverbes au chapitre 3. On se rappelle que Proverbes est un livre qui est écrit par Salomon, qui a multiplié les expériences de vie, qui a mené ses expériences dans tous les domaines qu'il pouvait au niveau de sa propre personne et qui arrive avec des conclusions, qui arrive avec des instructions pour nous de la part du Seigneur. Alors je lis pour vous le chapitre 3, le verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Je répète le verset 1 et 2, même si aujourd'hui on est au verset 2, mais tout simplement parce que c'est une suite. Donc on y va au verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Je répète une dernière fois, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Une première précision à apporter concernant ce texte, et particulièrement la traduction Louis II qui a été faite d'un mot en particulier, le mot prolonger, le verbe prolonger. Dans la plupart des versions en français, on va opter pour un prolongement des jours et des années de ta vie. Et le terme qui est utilisé pour prolonger, c'est le terme orek, apostrophe O R-E-K, je répète, apostrophe O-R-E-K. Et c'est un peu une mauvaise traduction, c'est un mauvais choix de traduction parce que le mot orek ne veut pas dire qu'on agrandit une chose, mais parle en fait de la durée d'une chose. Quand on lit ce texte-là dans la version Louis II notamment, hein, puisque c'est celle qui est la plus usuelle, on a tendance à croire que si effectivement on applique les préceptes et les commandements de Dieu, puisque le il représente effectivement cela, on va prolonger, on va allonger les jours de notre vie. Bibliquement parlant, on ne trouve pas d'exemple sur un tel fait. On ne trouve pas d'exemple de quelqu'un qui se serait mis à suivre les préceptes et les voies de Dieu et qui aurait par conséquent, de façon expliquée de la part du Seigneur ou de façon expliquée par ce propre homme-là, prolonger sa vie. Le seul qu'on voit prolonger sa vie, c'est Ézéchias, qui a demandé, lorsque Dieu lui annonce qu'il va bientôt mourir, il demande à Dieu un prolongement de son existence. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire la semaine dernière, lorsqu'on regarde les 14 années qu'Ézéchias va avoir eu en bonus, en ajout par rapport à la date qui était prévue pour sa mort, on se rend compte que pendant ces 14 années, il fait ce qui ne plaît pas à l'Éternel, il s'éloigne de Dieu et il finit très mal sa vie. Et c'est le seul cas où on voit effectivement un prolongement de la vie. Donc quand on établit une doctrine, lorsqu'on établit une vérité biblique, il nous faut être capable de l'appuyer par plusieurs versets. Certains vont même dire qu'il nous faudrait être capable de l'appuyer par l'Ancien et par le Nouveau Testament. Et dans cette pensée que Dieu prolongerait le nombre de jours, c'est pas expliqué dans la Bible. Le mot orek parle de durée, donc du nombre de temps qui est imparti. La bonne traduction que je me suis amusé à faire pour vous, ça serait une phrase comme celle-ci. Alors, ayez votre Bible pour bien regarder ce que le verset dit. Je vous le répète dans sa version Louis II initiale. Elle nous dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. La traduction qui serait plus appropriée dirait quelque chose comme, car sur toute la durée des jours et des années de ta vie, ils augmenteront la paix. Voyez la différence? Au lieu de dire ils prolongeront les jours et les années de ta vie, on va dire car sur toute la durée, sur la durée des jours, sur la durée des années, sur la durée de ta vie, ils augmenteront la paix. Alors l'emphase ici n'est plus faite sur un prolongement X du nombre de jours ou du nombre d'années qui nous est accordé, mais parle plutôt d'une augmentation de la paix de Dieu sur l'ensemble de notre quotidien, l'ensemble des années qui nous sont données et l'ensemble de la vie qui nous est donnée. Vous allez voir que le terme jour, le terme année et le terme vie va nous amener dans trois principes ou dans trois sphères d'action qui sont différentes. Alors la première chose que je voulais dire, c'est qu'on ne parle effectivement pas ici d'un prolongement de la durée de la vie, mais on parle ici d'une augmentation de la paix sur la durée même de la vie. La durée a été établie par Dieu avant même que nous n'existions. La durée a été établie, scellée par Dieu pour l'ensemble des jours qui nous sont accordés. Et sur cette durée-là, il nous dit, voici le truc, voici le moyen, voici la méthode pour que tu expérimentes encore plus de paix sur l'ensemble de ton existence. Alors l'observation des codes de conduite et des codes moraux, du code de conduite et du code moral de Dieu. Et ça, on les a vus hier avec le terme Torah et le terme mitzvah. Le terme Torah qui était plutôt le code de conduite, donc les choses, les actions qui étaient imposées, la façon dont on agissait. Et deuxièmement, le mitzvah, toujours qu'on a vu hier, qui était plutôt la sagesse qui vient de Dieu. Donc ici, ce matin, je parle d'un code de conduite et d'un code moral. Et effectivement, par rapport à Dieu, on a ces deux sphères-là dans lesquelles il nous faut faire attention. Comment je pose mes actes, comment j'agis dans ma vie de tous les jours, et de surcroît de cela, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes pensées, est-ce que mes valeurs glorifient Dieu ou pas? Et le Seigneur va dire, si tu prends en compte mon code de conduite que je te donne, si tu prends en compte mon code de morale que je te donne, alors ça aura une incidence sur ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, si j'observe effectivement les préceptes et les commandements de Dieu, si j'observe la sagesse de Dieu, effectivement, ça va avoir un impact sur ma vie. Et l'impact sur notre vie, ça a un impact qui nous est dit sur les jours, sur les années et sur ma vie. Trois choses qui pourraient en français être des expressions similaires, mais qui, lorsqu'on les reprend dans leur contexte hébraïque, vont avoir des connotations différentes et plus profondes les unes que les autres. Lorsqu'on parle des jours, c'est le terme yon, Y-O-W-N, Y-O-W-N. Et on parle du quotidien d'une personne. Lorsqu'on parle du quotidien d'une personne, on parle de son vécu ponctuel. Ça veut dire que d'avoir les préceptes et les commandements de Dieu bien gravés dans ma pensée, bien observés dans mon quotidien, ça va avoir une incidence sur mon vécu. Le yon. Donc, le vécu. Dieu veut avoir une incidence sur ce que tu vis, sur ce qui t'arrive et sur ce qui se passe à travers toi. Donc, non seulement sur les événements qui viennent à ta rencontre, mais aussi sur ta réponse par rapport à ces événements-là. Donc, Dieu veut une incidence. Dieu veut favoriser son action dans ton vécu, dans ton quotidien. Lorsqu'on parle maintenant des années, c'est le terme shane, S-H-A-N-E-H, S-H-A-N-E-H, et là on parle de l'existence. L'autre synonyme pour les jours de ta vie, c'était existence. Et ici on parle du mode de vie. Tout à l'heure on parlait du vécu, donc des actions que je pose, des événements que je traverse, mais ici on parle du mode de vie, donc mes habitudes, comment je mène ma vie de tous les jours, quelles sont mes valeurs, est-ce que j'ai un mode de vie qui glorifie Dieu ou qui ne glorifie pas Dieu. Prenons par exemple, et je sais que je ne parle d'aucun d'entre vous ce matin, mais disons que quelqu'un est un menteur invétéré, qui se lève le matin et il a déjà des mensonges qui lui passent par la tête, qu'il a déjà des mensonges, il dit bonjour et puis il rajoute une phrase, puis la phrase qu'il rajoute est déjà un premier mensonge pour la journée et qui tout au long de la journée, la seule chose qu'il fait, c'est mentir, 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 mentir. C'est un mode de vie. Est-ce que ce mode de vie cadre avec les pensées de Dieu? Si cet homme vient à connaître le Seigneur, si cet homme, et là je sais, je parle, et c'est un peu caricatural lorsque je parle de ce menteur invétéré, mais disons qu'il existait. Mais cette personne qui vient à Christ va savoir que le mode de vie que j'entretiens depuis X nombre d'années, voire depuis ma naissance, ce mode de vie ne correspond pas avec ce que la Bible enseigne. Donc, si je reçois les préceptes de Dieu, si je reçois l'enseignement de Dieu, je vais aussi mener une vie qui est en accord avec sa pensée. Alors, lorsque Dieu dit « voici ceci est péché », si moi, dans ma vie de tous les jours, je ne fonctionne qu'en pratiquant ce péché, en venant à Christ, ses enseignements et ses préceptes devraient faire en sorte que mon mode de vie change. Quand tu es venu à Jésus, ton mode de vie a-t-il changé? Là, tu vas me dire, oui, ça a beaucoup changé. A-t-il changé suffisamment? Et quand je parle de suffisamment, je parle, es-tu en règle avec Dieu? Disons qu'on parle du mensonge. La Bible nous dit dans plusieurs versets, on va nous parler comment Dieu déteste le mensonge. comment il déteste ou il réprimande, il rejette la personne qui aime et pratique le mensonge. Même dans la fin du livre d'Apocalypse, il y a un verset qui est très dur où il va dire: dehors les chiens, les idolâtres, les hypocrites, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Donc on nous met le mensonge comme une offense profonde devant Dieu. Tu pourrais avoir réglé tout un tas de choses. Tu pourrais avoir réglé que tu étais un kleptomane avant, que tu étais un voleur, tu as arrêté de voler, tu pourrais avoir abandonné la fraude, avoir abandonné la débauche, avoir abandonné l'adultère, mais si tu aimes et tu pratiques encore le mensonge, donc ta vie a encore besoin d'être formatée, d'être réformée par Dieu. Ton mode de vie de mensonge doit être changé par Dieu. Donc on a vu, un, le vécu, deux, quand on parle du terme année, on parle du mode de vie, et lorsqu'on parle de la vie en soi, le terme chai, puisqu'on a dit ils prolongeront les jours, les années de ta vie, le terme vie, c'est le terme chai, Chay. Chay. Et lorsqu'on parle du chai, on parle de la vivacité d'une chose, du fait que cette chose soit verdoyante. On parle du fait que cette chose soit encore fertile et productive. Donc ici, on ne parle plus nécessairement du vécu, ni du mode de vie, mais on parle de la raison d'être de notre existence. On sait tous que Dieu nous a créés avec un propos. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai eu l'occasion à plein de reprises depuis le début du confinement de vous le répéter régulièrement et régulièrement, comme quoi Dieu vous a créé avec un but, avec un objectif. Et la seule façon de venir à remplir pleinement cet objectif, c'est donc de s'arrêter à un moment donné et de demander à Dieu: Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Seigneur, pourquoi m'as-tu fait venir au monde? Quel était le propos? Quelle était ta pensée avec mon existence? Et ce faisant, Dieu se révèle à nous et on peut orienter nos vies pour accomplir le propos, l'objectif que Dieu avait avec notre existence ou notre naissance. Donc, quand on parle ici de chai, lorsqu'on parle ici de la vie, on parle de la productivité de quelqu'un. On parle de sa raison d'être en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Alors, est-ce que tu accomplis pleinement ce que Dieu veut pour toi? Si effectivement tu reçois sa parole, si tu reçois ses préceptes, ce que la Bible nous enseigne ici, c'est que non seulement ton vécu quotidien va en avoir une incidence, va en tirer une incidence, va en tirer une influence, mais de surcroît à cela, ton mode de vie va aussi être changé et transformé par les préceptes et par les enseignements de Christ, mais finalement aussi ta raison d'être. Peut-être que tu t'es levé ce matin en disant: moi, je vais devenir président des États-Unis. Pour ce faire, il faudrait que tu sois américain. Si tu n'es pas américain, tout au plus, peux-tu être un premier ministre canadien. Mais disons que ça serait l'objectif que tu t'es donné ce matin. Tu te lèves et tu dis: oui, je vais remplacer Justin Trudeau, je vais devenir le premier ministre du Canada. Encore faut-il savoir, est-ce que c'est ce que Dieu avait pour toi? Tu pourrais effectivement devenir le premier ministre du Canada, mais passer à côté de l'appel que Dieu avait pour toi. J'ai souvent eu cette image pour illustrer la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu. C'est un peu comme la personne que Dieu appelle pour aller à Chibougamau, pour parler à une personne. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Chibougamau, c'est une petite ville un peu plus au nord, à circuler au Québec. Ça, je dis ça pour ceux qui nous regardent à l'étranger. Donc le Seigneur te dit: je veux que tu ailles à Chibougamau. Et à Chibougamau, tu ne vas parler qu'à une seule personne, et c'est la seule personne qui va se convertir de tous les témoignages que tu vas donner. Mais je veux que tu ailles convertir cette personne. Et tu dis: mais non, Seigneur! Il y a quelqu'un qui vient de m'inviter pour aller prêcher en Chine, et là je pourrais aller côtoyer 1,3 milliard d'âmes qui ont besoin de te connaître, et là tu dis: j'abandonne cette personne de Chibougamau et je m'en vais convertir le 1,3 milliard de Chinois qui existent en Chine actuellement. Donc tu te rends là-bas, effectivement tu te mets à témoigner, et il y a des gens qui se convertissent. 1, 2, 1000, 3000, 5000, 100 000, 1 million, 100 millions, tu pourrais te dire, j'ai parfaitement vécu ma vie et j'ai accompli ce que Dieu voulait. Mais non, Dieu voulait que tu ailles à Shibugamo parler à cette personne qui existe et qui attend toujours ta venue. Si toi, tu as eu du succès en Chine, ce n'est pas parce que tu as fait la volonté de Dieu, mais c'est parce que tu as proclamé cette parole et cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir eu son effet. Donc, c'est Dieu qui a agi par sa parole, qu'il a fait à travers toi, mais toi, tu n'as pas obéi au Seigneur. Donc, parfois, tu fais des choses et ces choses-là sont peut-être bien à tes yeux, seront peut-être applaudies par l'ensemble de la confrérie humaine, mais Dieu sait, moi je te voulais à Shibugamo et tu n'es pas allé à Shibugamo. Donc faisons attention, est-ce que notre vie sert à quelque chose? Est-ce qu'elle accomplit pleinement la raison d'être pour laquelle le Seigneur nous a créés? Donc l'observation des codes de conduite morale et des codes de conduite pratique de Dieu a une incidence sur notre vécu quotidien, sur notre mode de vie et sur notre raison d'être en tant que créature de Dieu. On va nous dire, ils prolongeront les jours de ta vie, les jours et les années de ta vie, ils augmenteront la paix. Donc, l'observation des codes de conduite et morale prescrits par Dieu vont augmenter, yakaf, la paix dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, ils augmentent, yakaf, je l'appelle, Y-A-C-A-P-H, Y-A-C-A-P-H. Ils augmentent la paix dans ton quotidien. Donc, ils augmentent la paix dans ton vécu de tous les jours. Ils augmentent la paix dans les années, donc dans le chanet, dans ton mode de vie. Ça veut donc dire qu'au départ, ils augmentent la paix dans ton quotidien, dans ta façon de fonctionner quotidiennement. Tu as la paix maintenant de te rendre au boulot. Tu as la paix maintenant d'aller à l'école. Tu as la paix maintenant de ramasser les feuilles chez ton voisin. Tu as la paix de déblayer l'entrée devant chez toi. Dans ta pratique de tous les jours, tu expérimentes une paix accrue. De surcroît à cela, dans ton mode de vie, tu acquiers une paix supplémentaire, une paix excédentaire. Maintenant, tu pratiques un mode de vie que tu sais qui n'est pas condamné par Dieu. Donc, tu n'es pas désapprouvé par Dieu. Puisque maintenant, ton mode de vie est influencé par la parole, par les préceptes, par les commandements et par la pensée de Dieu, ce mode de vie que tu pratiques aujourd'hui est donc un mode de vie sur lequel tu sais que tu as le sceau d'approbation de Dieu. Et on va revenir sur ce terme tout à l'heure. Et finalement, ta raison d'être, puisque autrefois tu faisais à ta guise un peu à tâtons en essayant de parvenir à certains résultats sans savoir si c'était la volonté de Dieu, maintenant que ces préceptes sont rentrés en toi, maintenant que ces commandements sont rentrés en toi, maintenant que sa pensée t'a été communiquée, tu mènes maintenant une vie qui sert à quelque chose aux yeux de Dieu et qui remplisse le mandat que Dieu avait pour toi, tu es donc aussi en paix. Et c'est là où la notion de ce verset devient importante. Ça veut dire que plus je connais le Seigneur, plus sa parole est présente en moi, plus je peux saisir la pensée de Dieu par rapport à mon quotidien, comment je gère mon quotidien, à mon mode de vie, comment je vis et quelles sont les choses à changer dans mon mode de vie, et enfin, à vivre une vie qui va dans l'objectif, dans le propos, dans les desseins que Dieu avait pour moi. Donc, ce faisant, j'ai effectivement une paix, j'ai effectivement une assurance, j'ai effectivement un calme qui s'empare de moi parce que je sais que je ne suis pas en train de me tromper, je sais que je ne suis pas en train de faire fausse route, je sais que je ne suis pas en train de prendre une voie détournée qui m'éloignerait des desseins de Dieu pour ma vie. L'observation des codes et des codes de conduite et morale de Dieu, prescrits par Dieu, augmente la paix, le shalom, dans la vie de l'enfant de Dieu. Shalom, S-H-A-L-O-W-M, Shalom, c'est un terme qu'on a déjà étudié dans d'autres circonstances. Je vais sortir simplement trois aspects du shalom que Dieu nous transmet. Qu'est-ce que ça veut dire la paix dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire la paix dans mon mode de vie? Qu'est-ce que ça veut dire la paix dans ma raison d'être ou dans les objectifs de ma vie? Un, la paix, le shalom, parle de la complétion d'une chose, le fait qu'une chose est menée à sa plénitude, qu'une chose est menée jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie. Complétion, c'est le nom commun qui vient de l'adjectif complet ou complète. Donc Dieu veut que le contenu de ta vie, le contenu de ton vécu, veut que le mode de vie que tu mènes, veut que l'objectif qu'il avait fondé sur toi lorsqu'il t'a créé, il veut que cela soit complètement achevé. Donc il veut que tu mènes ta vie d'une façon épanouie et pleine. Il veut que tu connaisses la plénitude dans ton mode de vie. Il veut qu'effectivement tu vives pleinement dans sa pensée et pleinement selon ses préceptes de justice, de grâce et de bonté. Il veut que tu vives aussi pleinement la mission qu'il t'a confiée. Donc, un, le shalom nous parle de la complétion, de la plénitude de notre existence. De surcroît à la complétion ou à la plénitude, on va parler de perfection. Lorsqu'on parle de shalom, on parle aussi de la perfection. Donc là, on ne parle plus du contenu qui est complet, mais on parle de la qualité qui est propre à ton vécu quotidien, la qualité de ton mode de vie et la qualité de l'objectif que tu as atteint. Ici, on parle vraiment que Dieu puisse regarder ça et dire, effectivement, c'est du bon boulot. Du bon boulot dans mon quotidien. J'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui, mais je l'ai bien fait. Quand je dis simplement j'ai fait ce que je devais faire, ça c'était le contenu. Mais quand je l'ai bien fait, c'est la qualité. Et lorsqu'on parle de la perfection, on parle donc de la qualité du travail que tu as fait, qualité de ton vécu, qualité de ton mode de vie et qualité de la mission que tu es en train de mener pour Christ. Donc complétion, perfection, dernier terme pour aujourd'hui, approbation. Le shalom veut dire être en paix avec Dieu. Pour être en paix avec Dieu, je dois avoir son sceau d'approbation sur ma vie. Alors est-ce que mon vécu de tous les jours peut recevoir l'approbation de Dieu? Est-ce que le mode de vie que je fais perdurer dans ma vie, est-ce que ce mode de vie reçoit oui ou non l'approbation de Dieu? Est-ce que l'objectif que je mène actuellement avec ma vie, ce à quoi j'occupe ma vie, est-ce que l'objectif principal de ma vie peut recevoir le sceau d'approbation de Dieu? Ton vécu, Dieu veut l'approuver et Dieu peut l'approuver. Ton mode de vie, Dieu veut l'approuver et Dieu peut l'approuver. Ta raison d'être, Dieu veut l'approuver et Dieu peut l'approuver. Mais il ne peut approuver que ce qui sort directement de son cœur, que ce qui vient directement de sa pensée, que ce qui est en accord avec sa parole, avec ses préceptes et avec ses commandements. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'effectivement Dieu veut avoir une incidence dans ta vie de tous les jours. Il veut que la vie que tu mènes à tous les jours, tu aies son approbation. Il veut trouver ta vie qui sert effectivement au propos de ton existence, au propos pour lequel il t'a fait venir à existence. Et c'est des questions importantes que tu dois te poser aujourd'hui. C'est des questions que je me pose régulièrement. Je fais un peu cette introspection régulièrement, à savoir où est-ce que tu en es rendu, Florent. Es-tu effectivement dans ta pratique de tous les jours? Es-tu dans ce que Dieu voudrait pour toi? Est-ce que tu fais ce qu'il veut que tu fasses? Est-ce que ce que tu fais est fait de la bonne manière, est fait avec la bonne intention, est fait avec la bonne attitude, est fait avec la bonne pensée, est fait avec la bonne méthode? Est-ce que la qualité, non seulement le contenu, mais est-ce que la qualité peut être approuvée ou pour recevoir le sceau d'approbation de Dieu. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Être approuvé par Dieu, c'est être agréable à Dieu. Alors, es-tu agréable à Dieu dans ton quotidien? Comment tu réagis ou tu interagis avec ceux qui t'entourent? Es-tu agréable à Dieu avec cela? Dans ton mode de vie que tu pratiques, peux-tu dire que foncièrement, oui, ton mode de vie plaît à Dieu? Ou est-ce qu'il y a effectivement des choses que tu sais, genre le mensonge pour le menteur invétéré dont on parlait tout à l'heure? Est-ce que tu sais qu'il y a une telle chose dans ta vie, qu'il y a une telle sphère dans ta vie que tu as maintenue, que Dieu ne peut pas approuver, que Dieu ne peut pas accepter? Est-ce que tu es prêt à laisser tomber ce mode de vie pour te soumettre, pour remplir les préceptes et les commandements que Dieu nous donne? Et enfin, est-ce que l'objectif que tu suis, l'objectif que tu poursuis actuellement dans ta vie de tous les jours, est-ce que cet objectif peut recevoir l'approbation de Dieu? Est-ce que tu es effectivement en train de t'orienter, de t'enligner vers un objectif qui est celui que Dieu avait en pensée lorsqu'il pensait à toi bien, 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 bien longtemps avant même que tu n'existes? Il va dire de Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi, je t'avais déjà appelé prophète des nations. Donc si Jérémie était devenu autre chose que prophète des nations, il serait passé à côté du propos de Dieu. Paul va nous dire qu'il a été appelé comme apôtre des païens. Si Paul avait fait autre chose, s'était concentré simplement sur l'église de Jérusalem, qu'il avait donné toute sa sagesse et tous ses enseignements strictement sur l'église de Jérusalem, ben il serait passé à côté de ce que Dieu avait pour lui. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu par rapport à l'objectif que tu mènes? Est-ce que dans ce processus, dans ce cheminement qui est le tien vers l'objectif final de Dieu dans ta vie, est-ce que tu es dans le temps, dans le contexte, dans l'attitude, dans la préparation que Dieu peut approuver, ou Dieu te regarde-t-il en te disant « tu fais bien des choses, mais ce qui est important, tu ne le fais pas ». C'est un peu ce qu'il disait à propos de Marthe, Marthe qui va aller voir Jésus en lui disant « Mais est-ce que ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse faire tout le travail ?» Et Jésus va lui dire « Tu t'excites pour bien des choses, ton cœur s'agite pour bien des choses, mais Marie a pris la bonne part. » Est-ce que toi, lorsque Dieu te regarde, il te dit « Ouais, tu fais un tas de choses, mais tu es juste en train de t'agiter. » Tu secoues de l'air et de la poussière, mais foncièrement, tu ne fais pas ce que tu devrais faire actuellement. Alors, je prie que tu puisses augmenter la paix de Christ, la paix de Dieu, le shalom qui vient de Dieu, qu'il puisse augmenter en apprenant, en connaissant, en venant à la découverte des préceptes, des commandements et de la pensée de Dieu. Alors laissez-moi prier pour vous ce matin, et de surcroît à cela, je vais aussi prier pour les élections qui se passent aux États-Unis aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te dire tout d'abord merci pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle est une source d'instruction effectivement pour nous aujourd'hui. Elle nous amène à nous poser des questions importantes sur notre existence, importante sur comment on mène nos vies, importante sur notre quotidien même. Ton regard est posé sur nous dans chacune de nos actions, dans chacune de nos réactions, dans chacune de nos décisions quotidiennes. Alors nous prions, Seigneur, qu'effectivement nous puissions avoir ton shalom augmenté chez nous parce qu'on a appris ta parole, parce qu'on a connu ta pensée, parce qu'on a observé tes commandements et tes préceptes, et parce que tu prends plaisir dans le vécu quotidien qui est le nôtre. Mais de surcroît à cela, Seigneur, on veut aussi te présenter notre mode de vie respectif. Tu sais, Seigneur, ce qui est à changer. Tu sais ce qui est à abandonner. Tu sais ce qui est à couper de notre existence. Je prie, Seigneur, que ma sœur, je prie que mon frère ait le courage de prendre les décisions qui s'imposent pour couper ce qui doit être coupé et être en règle avec toi, en règle devant toi, sur le mode de vie même que les uns et les autres pratiquent de façon respective au Dieu. Je prie enfin, Seigneur, que l'objectif que tu avais pour chacun d'entre nous, objectif qui est différent d'une personne à l'autre, appel qui est différent d'une personne à l'autre, je prie, Seigneur, que nous ne puissions pas passer notre existence ici-bas sur terre sans s'orienter vers cet objectif. Ta parole nous dit que tu ne te repens ni de tes dons, ni de ton appel. Et cet appel, Seigneur, était lancé sur nos vies bien, bien, bien longtemps avant même que nous n'existions. De toute éternité, Seigneur, tu avais placé un appel sur la vie de chacune de tes créatures, sur la vie, Seigneur, de chaque homme, de chaque femme. Je prie, Seigneur, pour ma propre vie, mais je prie aussi pour la vie de ma sœur et la vie de mon frère, qu'ils puissent pleinement entrer dans tes plans, dans ta vision, dans ta pensée, et accomplir, Seigneur, de leur vie, accomplir de leur vécu, accomplir, Seigneur, de leur quotidien, ce que tu avais en pensée pour eux, avant même, Seigneur, qu'ils n'aient vu le jour. Seigneur, ce matin, on veut te prier aussi de façon spécifique pour ce qui se passe au sud au sud de la frontière. Aujourd'hui, Seigneur, c'est une journée d'élection aux États-Unis et peut-être davantage que toute autre nation sur cette terre, ils ont une incidence sur l'ensemble du quotidien de la planète. Les États-Unis, Seigneur, exercent une influence partout autour de la planète, partout, Seigneur, dans les pays avec lesquels ils entretiennent des bonnes relations, mais par conséquent aussi, Seigneur, dans les pays avec qui les relations sont plus tendues, voire adverses. Alors nous prions, Seigneur, que ta main soit au contrôle de tout ce qui va se passer aujourd'hui et de tout ce qui va se passer par la suite. Oui, Seigneur, c'est toi qui places les autorités dans le sens où c'est toi, effectivement, Seigneur, qui permet à l'homme de statuer qui ils veulent comme autorité et qui ils élisent. Alors je prie, Seigneur, que tu puisses prendre contrôle, quel que soit le président qui sera élu, que ce soit M. Trump qui serait réélu, que ce soit M. Biden qui serait appointé pour un premier mandat. Nous prions, Seigneur, que lui, l'un comme l'autre, puisse être sensible à ta voix et qu'il puisse amener, Seigneur, l'unité parmi la nation. Bien des scénarios sont développés actuellement par rapport à ce qui pourrait se passer demain, ce qui pourrait se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Nous te demandons, Seigneur, parce que l'ensemble de la planète en serait, Seigneur, en serait des victimes ou en serait, Seigneur, des victimes collatérales. Nous prions, Seigneur, que tu puisses mettre le calme, mettre la paix dans cette situation d'élection qui est particulièrement tendue, contrairement aux autres élections précédentes. Alors nous prions, Seigneur, que tu entendes la voix non seulement du peuple américain, bon nombre d'entre eux te craignent, bon nombre d'entre eux te connaissent, bon nombre d'entre eux auront pris cette journée dans le jeûne et dans la prière. Nous te prions, Seigneur, que tu entendes la prière des uns et des autres, et que tu gardes la paix, que tu gardes le calme, Seigneur, dans le pays. Et là où il doit y avoir, Seigneur, réconciliation, nous prions, Seigneur, que ta main toute puissante fasse ses miracles, que l'homme, les politiciens, les sociétés qui se sont succédées n'ont pas été capables de faire. Nous gardons les yeux vers toi. Tu es notre roc. Tu es aussi, Seigneur, le roc pour nos frères et nos sœurs au sud des États-Unis. Alors nous te demandons, Seigneur, d'intervenir. On prie aussi, Seigneur, pour toutes ces nations qui ont eu des élections dernièrement. On pense à la Côte d'Ivoire, qui est dans une transition difficile. Il y a des heurts qui se passent, Seigneur, entre factions pro-gouvernementales et factions pro-opposition. Nous prions, Seigneur, que ta main soit posée sur la Côte d'Ivoire, le Nigeria, on pense à eux aussi, Seigneur, qui passent par des moments difficiles. On pense au Cameroun, Seigneur. Et toutes ces autres nations, on a entendu dernièrement, Seigneur, une étudiante en Haïti, Seigneur, qui a été enlevée, qui a été retrouvée morte. Nous te demandons, Seigneur, pour toutes ces nations où nous avons des frères, des proches qui y habitent, nous te demandons, Seigneur, étends ta main. Et par grâce, Seigneur, pour nos frères, pour nos bien-aimés, pour nos sœurs, pour notre famille spirituelle et dans certains cas, pour notre famille même de sang et de chair, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et d'agir. Et d'avance, Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu entends, que tu écoutes et que tu réponds aux prières de tes enfants. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, ce que nous avions pour ce matin, permettez-moi juste de saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. On a le frère Ramon, Dieu te bénisse. On a son épouse Evelyne, Dieu te bénisse. On a Farley avec sa maman Marie-André. On a Marie-Huguette. On a Melida Gamboa. On a Maggie. On a Yvonne Sid, bonjour. Je pense qu'on a Martha Lucia aussi qui s'est jointe à nous. Donc je pense que c'est tout pour ce matin. Les autres, vous avez été salués. Si je ne vous ai pas nommé ce matin, c'est que je n'ai pas vu votre nom. Je m'en excuse, mais je vous salue tous. Ceux qui se joignent à travers la page Internet de l'Église, je sais qu'il y a la sœur Patricia, le frère Gilles, probablement Michel plus tard qui va nous regarder. Et puis la sœur Concepcia, on me dit qu'elle écoute aussi très fidèlement nos enseignements du matin. Donc à vous tous, que Dieu vous bénisse, à ceux que j'ai oubliés aussi, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée, que la paix du Seigneur vous environne, que le shalom de Dieu vous soit augmenté dans votre quotidien d'aujourd'hui, dans votre mode de vie d'aujourd'hui et dans l'objectif que vous poursuivez encore aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous, on se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Au revoir tout le monde.